vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale où je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
C'est déjà de gauche.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture, légende et gastronomie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va du côté de Lyon, pas pour parler grande cuisine, mais football, en faisant le 11 de légende de l'Olympique Lyonnais et poursuivre notre série après la table ronde sur le PSG. Pour réaliser cette lourde tâche, j'ai la chance d'avoir avec moi deux amoureux du club rodanien, Pierre Prugnot, journaliste à l'équipe et fondateur du Libéro Lyon. Comment ça va Pierre ?
Super bien, merci pour l'invitation.
La dernière fois que tu es venu, c'était pour parler Coupe du Monde et avant ça, défenseur, notamment Umtiti. Ça, tu t'es remis de tes émotions ?
Bah ouais, écoute, tout s'est passé comme prévu, quoi.
Comme prévu, Umtiti buteur en demi-finale, voilà, c'était l'histoire était écrite. Et pour t'accompagner, on a Charlie, a.k.a. Serious Charlie, fondateur de Gone Away. Comment ça va, Charlie ?
Ça va super bien.
La dernière fois que toi, que tu étais venu, c'était pour parler des numéros 10, le plus bel épisode de Banquette, t'es d'accord ?
Ouais, je suis d'accord.
Voilà,
ouais.
Tu t'es fait plaisir, hein ?
Ouais.
Que des Lyonnais.
Que des Lyonnais.
Comme tous les Lyonnais qui viennent dans Banquette.
Et voilà. Bon, forceur.
C'est la base, forceur. Bon,
des esthètes.
Au choix.
Alors, petite précision pour les auditeurs, on enregistre cet épisode le lendemain du match de Coupe de France entre l'OL et le Stade Rennais. Donc, il se peut que Charlie et Pierre soient un peu à cran par moment.
Non.
Pas sûr, non ?
Question d'habitude.
D'accord, c'est garanti. Très bien. Alors, juste pour expliquer le fonctionnement de cet épisode, on va chacun donner nos joueurs, en commençant par le gardien, suivi des défenseurs, puis les milieux de terrain et ensuite les attaquants. Et pour chaque position, il faudra se mettre d'accord sur le quatuor ou le trio ultime, sachant qu'on part sur une formation 4-3-3, qui est un peu la formation historique de l'Olympique Lyonnais. Et à la fin, on aura donc l'équipe de rêve de l'Olympique Lyonnais. Mais avant de commencer, monsieur, j'aimerais savoir comment vous êtes devenu supporter de l'OL. On va commencer avec toi, Charlie.
Ben moi, j'ai grandi à Lyon. Je suis pas né là-bas, mais j'ai passé les premières années de ma vie là-bas. Et malheureusement, mon père était supporter de l'Olympique de Marseille.
Ah, voilà. Ton père a bon goût.
Oui, au choix, peut-être, je ne sais pas. Donc, on habitait à Lyon et le match qui a défini ça, c'est un certain match de la saison 96-97 où mon père regardait le match tranquillement dans le salon et l'Olympique Lyonnais en a collé 8 à l'OM. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé que pour faire chier papa, j'allais me mettre au foot et du coup, j'avais pas trop le choix, j'allais supporter l'Olympique Lyonnais.
C'est et comme comment ça. Lui, il l'a pris que tu supportes l'OL et pas l'OM ?
Mal.
Mal ?
Mal.
Ah ouais.
C'était, à l'époque, c'était encore la mode, l'OM.
Moi, j'imagine très mal mes enfants supporter un autre club que l'OM. Je pense que je vivrais très, très mal. Donc, je vais peut-être penser mon plan de carrière en
à la limite, fais pas d'enfants. C'est mieux pour eux.
Moi, je vivrais très mal que mes enfants supportent l'OM. Hein, donc,
ah ouais ?
Ouais.
Ah bah écoute, on verra bien. Et toi, Pierre ? Comment t'es devenu supporter de l'Olympique Lyonnais ?
Bah moi, quand j'étais gamin, j'avais 9 ans en 91, donc je suivais un peu l'OM, comme tout le monde, parce que moi j'habitais en Auvergne, donc loin d'aucun club, enfin près d'aucun club surtout, loin de tous les clubs.
Loin de tout, tout court.
Exactement, le vide.
Et après j'avais de la famille à Lyon, donc j'ai commencé à voir Gerland de l'extérieur, et puis il y a Manu Amoros qui a signé aussi en 93, je l'adorais Amoros. On en reparlera peut-être plus tard, du coup. Et du coup, après, non, voilà, je suis devenu... j'ai plus suivi l'OL. Et puis, je suis arrivé habiter à Lyon en 2001. Donc, je suis le vrai Lyonix de base, parce que je suis arrivé pour les 7 premiers titres.
Voilà, le premier titre lors de la saison 2001-2002. Un timing parfait, hein, c'est exactement ça. C'est cool. Alors, messieurs, on va commencer directement avec le poste de gardien de but. On va faire ça assez vite, je pense, vu qu'il n'y a qu'un seul nom à choisir. Qui vous avez choisi, Pierre ?
Bah, l'évidence, c'est Grégory Coupet.
Ouais, c'est celui que j'ai choisi aussi. Est-ce que c'est aussi l'évidence pour toi, Charlie ?
Ouais.
Coupet,
ça me paraît assez limpide. Ouais.
Il n'y avait pas de débat avec, par exemple, Lloris, par exemple, qui n'a pas forcément de grands titres, mais qui est quand même assez performant, non ?
Non, Coupet, c'est. Déjà, c'est quasiment la synthèse de Lloris et. Et Lopez, en fait, c'est-à-dire qu'il est hyper fort sur sa ligne et hyper agressif dans son jeu, dans le bon sens du terme, quoi qu'en disent les détracteurs de Lopez. Mais, et surtout, c'est un mec qui est intouchable de 2001 à 2006, il fait zéro boulette.
Ouais.
Genre, il y avait un centre, tu te retournais pour faire autre chose, tu savais qu'il allait la chercher. Il est monumental, je pense même par période, il est quasiment le meilleur gardien du monde. Et puis, je sais pas, il incarne aussi cette espèce d'OL du tournant, enfin de la fin des années 90 et donc des premiers titres. Cette espèce d'OL de, tu sais, de père un peu réac, mais rassurant, quoi, ce que t'aurais aimé avoir et détester en même temps. Et donc, non, enfin, là-dessus, il n'y a pas de débat. Et puis, j'ai pas de fin, il n'y a pas de débat, c'est tout.
Mais moi, il y a un truc que je remarque avec Coupé, j'ai l'impression qu'il n'a pas, dans l'imaginaire collectif, peut-être des fans de foot, la place qu'il mérite vraiment. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte le niveau qu'il avait, tu l'as dit, vraiment, dans la première partie des années 2000, où, en vrai, il aurait pu légitimement être le gardien numéro 1 de l'équipe de France sans souci devant Barthez. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie.
Bah, le problème, il est là. C'est qu'il a le malheur, Coupé, comme pas mal d'autres joueurs. On va peut-être en citer un après. Eric Carrière avec Zidane, c'est pareil. Ouais. C'est des joueurs qui ont une carrière exceptionnelle, un niveau exceptionnel, mais qui sont dans l'ombre de légendes.
Ouais.
De joueurs qui ont dépassé leur statut de bons joueurs, qui sont devenus des icônes. Et lui, il a eu le malheur d'avoir le pic de sa carrière à une époque où t'avais un mec qui était champion du monde, champion d'Europe, et donc indéboulonnable par essence. Quoi.
Ouais, mais il est meilleur qu'en 2006, il est meilleur que Barthez. Depuis 3-4 ans, sans contestation possible. Lui, c'est un des grands baisers de l'histoire. Et à mon avis, l'histoire lui rend un peu grâce, dans le sens où je pense que s'il est là, la France est championne du monde.
Tu penses?
Bah ouais, moi je regarde la finale, il n'y a pas de boulette de Barthez. Mais il n'y
a pas d'exploit non plus.
Il n'y a pas d'arrêt décisif.
Et il y a une tête sur la barre des Italiens et une tête sur le but. Et tu vois, c'est typiquement le genre d'action où dans ma tête, Coupé, il est dessus, tu vois, parce que dans la surface, il prend absolument tout. Alors, en vrai, c'est pas vrai, il a déjà pris des buts sur corner. mais j'ai l'impression, tu vois. Et puis bon, après, je peux dire qu'il aurait sorti des pénalties, parce que par définition, en tant que gardien lyonnais, il n'en a jamais sorti un. Oui, j'ai un peu. Mais même au-delà du match en lui-même, possible une sorte de justice, quoi.
Moi, je suis là pour tempérer.
Il a fait toutes les qualifs, et puis d'un coup d'un seul, en février, Domenech dit non, mais il y a encore débat, alors qu'en fait, on ne s'attend même pas à ce qu'il y ait débat.
Ouais.
Et non, c'est une des belles injustices.
Mais en tant que supporter lyonnais, on avait eu un peu la même discussion sur le 11 de légende du PSG avec Lama, qui, pareil, a eu le même adversaire, Barthez, pour le Mondial 98. Et comment... Est-ce que vous l'avez vécu un peu comme une injustice de voir votre gardien en club ne pas être le numéro 1 en sélection ?
À l'époque, je pense qu'on s'en foutait complètement. En fait.
Ouais.
L'Olympique Lyonnais était tellement haut que c'était pas... On va pas dire que l'équipe de France, c'était secondaire. Hein, mais disons qu'on avait moins de... Pour nous, ouais, c'était une injustice. Mais de toute façon, on était champion de France. Tu vois, enfin,
ouais.
Voilà. Il avait la reconnaissance qu'il avait avec les titres que gagnait l'OL. À la différence de certains joueurs actuellement à l'OL qui peuvent ne pas avoir leur chance en équipe nationale et qui, en parallèle, n'ont pas le succès qu'ils méritent. Enfin bon.
Ouais.
Pour moi, Coupé, j'ai pas un souvenir d'avoir été écœuré par le fait qu'il soit pas numéro 1, d'avoir pensé qu'il le méritait amplement, oui. Mais bon, c'était quand même Barthez en face. Et Barthez, même s'il n'était pas...
Ça reste Barthez.
Dans un 11, peut-être que la présence de Barthez... Et ce fameux esprit de collectif, de groupe, peut-être que ça se justifiait par ça. Voilà.
Bon, ça appartient à l'histoire.
C'est-à-dire que ça aurait été plus problématique d'avoir Barthez sur le banc que d'avoir Coupé, a priori. Voilà. Mais bon, après, il aurait pu ne pas avoir Barthez dans le groupe, par exemple.
Par exemple. Après, le
reste. Et si t'étais mon choix.
T'as des choix assez tranchés, Pierre. Mais oui. C'est
non,
bien.
Mais moi, en revanche, moi, j'étais. Je suis pas du tout fan de Coupé, mais je trouvais ça tellement dégueulasse que j'ai quand même vécu. Enfin, je me disais, mais l'injustice que le mec doit ressentir, ça va être affreux, quoi.
Donc, du coup, en poste de gardien, on a Grégory Coupé, donc ça, sans contestation. On va passer un petit peu devant, donc la ligne de 4. On va commencer par les deux latéraux, gauche et droit. Alors, qui vous avez mis, Charlie, t'as mis qui en latéral gauche et latéral droit ?
On n'est pas sur un poste où il y a un choix immense. Déjà, à gauche, il n'y en a pas des milliards. Hein. Mm-hmm. Celui qui me vient tout de suite en tête, c'est Eric Abidal.
Pareil.
Évidemment, parce que bon, si tu prends la concurrence, ceux qui l'ont précédé et ceux qui l'ont suivi, il n'y a quand même pas de grands, grands noms, à mon sens.
Oh, ouais, Alice Soko, non, ça...
Non. Fabio Grosso, non. Voilà. Mohamedou Dabo, non. C'est à droite ou à gauche?
Bah, non, Dabo, c'est à gauche, non? C'est à gauche. Ouais. C'est le seul droitier qui est meilleur à gauche.
Je sais jamais, en fait. C'est qu'un problème de pied, mais... Ouais, ce sera Abidal. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais...
J'aurais cité... il y a deux mecs que j'adore, donc j'adore Amoros, de fait. Et en plus, ça va être une manière de parler de l'équipe de 95, qui est une équipe hyper sexy. et Delmotte, que, ouais. que j'adorais. Et du coup, je les préfère à Abidal, qui est pour moi un faux latéral gauche, tu vois. Enfin,
tu le trouves plus central, fort dans l'axe, ouais. Bah,
ouais, je sais pas, j'ai pas.
Mais après, à Lyon, il a surtout joué à gauche, ouais.
Ah ouais, c'est sûr. Et je pense qu'évidemment, je perdrais si. Mais moi, dans mon équipe, que ce soit de cœur, entre guillemets, ouais. ou même de raison, je mettrais à Moros. Et à droite, du coup, toi, moi, je pense que je mettrais Domenech.
Moi, je mettrais Réveillère.
Moi, j'ai mis Réveillère aussi. Après, c'est sûr que.
On parle de cœur, ouais.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est. Bon, je dis pas que je porte forcément Lyon très, très haut dans mon cœur, même si c'est pas autant que Paris, mais. Moi, Réveillère, c'est un mec qui m'a accompagné justement dans mes années foot, comme c'était Lyon était le grand club français, le plus grand club français dans les années 2000. C'est peut-être celui que j'ai le plus vu jouer et que j'ai vu aussi performant. Peut-être pas le plus sexy, le plus fort, mais il était là. Il était, je retrouvais un peu genre efficace. C'est le genre moyen, mais qui était là. Et
c'est un joueur qui est allé tout en haut de ses possibilités, pense. Après, je pense qu'il y a une question de génération. Pierre, t'as quoi?
Non, mais j'ai pas connu Domenech joueur. Hein.
Ouais, mais même, t'es peut-être plus sensible à
ce type. Non, mais je suis sûr, Domenech, c'est un mec du quartier des États-Unis, tu vois, genre, qui venait sans chaussures à l'entraînement, qui surtout appartenu à une sorte de défense assez mythique, celle des années 70. Donc, évidemment, j'ai plus lu que vu, mais. Avec Beadza et Mihailovic dans l'axe. Après, à gauche, je sais pas, ça change. Je crois qu'il y a l'homme, et puis il y a le frère Domenech aussi, des fois. Enfin, je ne connais plus exactement. Mais qui est une défense une vraie défense d'enfoiré. Et d'un très haut niveau en même temps, quoi. Et c'est vraiment la défense à l'ancienne. Et c'est la défense des mecs qui gagnaient. D'une équipe qui a peu gagné. Qui a quand même gagné une Coupe de France ou deux, mais surtout qui gagnait ses derbies. C'est-à-dire, même les années où ils étaient 16e, ils étaient capables de battre le grand Saint-Etienne parce que les mecs, il n'y avait que ça qui les obsédait. Et du coup, ça rend cette équipe assez mythique. Et je pense qu'il n'y a pas à l'échelle de l'histoire, il n'y a pas de débat sur le poste. Je pense qu'il a même peut-être plus de sélections en équipe de France que Réveillère, d'ailleurs.
Ah oui, sûrement. Ouais.
Donc, je pense que Domenech, c'est le latéral du 11 de légende.
Là, tu es en train de bien me le vendre, là. Vraiment. Moi, j'avais couché Réveillère sur mon petit papier, là. Je suis limite peut-être à deux doigts de changer avec toutes tes explications, ton argumentaire. Très bien, tu fais du bon travail.
Allez, c'est notre caution historique.
Voilà, je vais mettre Domenech. Je vais changer, je vais mettre Domenech. Et donc, du coup, on est sur 2-1. Donc, allez, Domenech. Voilà, je raye en direct. Donc, Domenech.
Vous me mettez Domenech, je vous concède Abidal.
Voilà, très bien. Donc, on est sur une 2 pistons, Abidal, Domenech. Ça va, c'est pas mal, 2 époques. C'est vrai que les années 70 de Lyon, on a tendance à oublier, bon, c'est très loin. Mais c'est peut-être la première grande période de l'Olympique Lyonnais. C'était pas aussi fast que ce qu'ils ont connu 30 ans après, mais c'était celle où ils ont gagné des titres, quoi.
Ouais, c'est une génération qui est hyper marrante. On en reparlera un peu en remontant dans l'équipe, mais surtout le truc qui m'a plus marqué. Un jour, je regarde la confrontation Lyon-Saint-Etienne, et donc l'OL fait des années où 3e par exemple, hein, mais elle en fait aussi des années 14 ou 16e. Mais peu importe, quoi. Genre, il y avait ces deux matchs par an, et sur l'ensemble des années 70, le bilan est très équilibré, alors qu'on parle d'une des meilleures équipes européennes contre une équipe. Oui, une équipe moyenne plus du championnat de France, quoi.
Ouais.
Enfin, qui devrait être une très bonne équipe du championnat de France, mais on verra plus tard. Les mecs en ont un peu rien à foutre en règle générale, et ce qui les intéresse, c'est que les derbies ou les gros matchs.
Ça. Alors, pas toi, une équipe, mais.
Toi, qui t'as mis, Pierre, justement, en défense centrale?
Ah, bah là, en revanche, je ne transigerai pas. Non, bah, c'est Chris Umtiti, quoi. C'est la défense centrale parfaite. Enfin, là, ouais. Je veux dire, t'as. À travers les générations, l'alliage stopper, libéraux, puis deux mecs. Chris, c'est peut-être une obsession de Lyonnais, mais il faut vraiment se rendre compte que lui aussi, c'était pas sur une période aussi longue que Coupé, mais il y a un moment, il est monumental. Enfin, j'ai l'impression que le mec perd jamais un duel, alors qu'il n'est pas spécialement grand, il n'est pas spécialement costaud. Et puis. Cette crado quand il faut, tu vois, c'est le fameux ballon balancé au-dessus des tribunes à la 90e quand il faut aéré, tu vois.
Mais j'avais lu une déclaration de Chris là, il n'y a pas très longtemps. Il réagissait, je crois, au match PSG-Manchester, ou je ne sais plus trop quel match. Et en gros, il dit... Non, je crois que c'était Lyon-Barça. Il réagissait à ce match-là. Et en gros, il disait que dans les... Lui, il rappelait un match contre le Real Madrid. Il disait que dans les premiers instants, il avait mis un gros taquet, je ne sais plus à quel attaquant, pour dire... Écoute, Coco, moi, je suis là et tu vas passer un sale match. Quoi. Ça, je crois pas que ça va être facile. Donc, je vois ce que tu veux dire dans ce côté un peu crade, un peu dégueulasse, quoi, qui sait se salir. Ouais.
Voilà, c'est la défense, good cop, bad cop. Et après, sur Chris, il y a un bémol, c'est qu'il y a le syndrome qu'on pourrait appeler le syndrome de Saïs. C'est les mecs qu'on a vus beaucoup trop longtemps. Quoi. C'est-à-dire, Chris, il y a 2 saisons et demie de trop.
Ouais.
Et du coup... Pour certaines personnes, ça a grave atténué le souvenir. Mais les 3-4 premières, elles sont exceptionnelles. Mmh. Et en plus, il appartient à ces mecs qui n'étaient pas suffisamment des stars pour qu'on nous les pique et qui, du coup, sont restés longtemps. Et on avait quasiment le top du top, enfin la crème à ce poste-là. Et c'était parfait.
Toi, Charlie ?
Moi, je suis d'accord avec Pierre sur Chris. Chris.
Ah, toi aussi, tu pars sur la même charnière ?
Ouais, il y a d'autres noms qu'on peut citer pour ne pas les oublier.
Moi, j'ai mis Cachapa, Chris. On est d'accord sur Chris ?
Ouais, Cachapa, il est dans l'histoire du club parce qu'il était là tout le temps et qu'il a été le partenaire idéal de Chris. Mais je ne pense pas que la carrière de Cachapa aurait été celle qu'il a eue s'il n'avait pas eu Chris à ses côtés.
Ouais. Enfin, en même temps, Cachapa, il part et c'est la fin de l'histoire.
Derrière, Chris Kilacci, c'était encore potable.
Non, mais quand il part, même quand il part du club, quand il part à l'hiver 2006-2007, c'est là où ils ont 50 points à la trêve. Mmh. Et après, tu vois, c'est Rome, c'est le retour à 30 points. C'est
un très grand joueur, mais je ne le mettrais pas dans les plus grands défenseurs. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Un mec qui avait une âme, qui entretenait l'âme du club et qui portait le club avec lui, comme d'autres joueurs de cette époque-là. Hein. Mais pour moi, il n'a pas l'aura qu'avait Chris. Et il n'a pas l'espèce d'élégance et d'intelligence de jeu qu'a Umtiti. Ouais. On aurait pu citer Edmilson, mais à mon sens, il n'est pas resté assez longtemps.
Ouais, il fait 4 saisons.
Voilà, là, on en a déjà 4.
Müller, la ville.
Müller.
Ouais, après, on peut citer les héros. Pour moi, Patrick Müller, c'est un héros parce qu'il donne le premier titre de l'Air Olas. C'est pas le meilleur défenseur. Puis après, il revient ensuite faire le pompier. Voilà, pour moi, il fait partie des héros du club, mais pas du 11 de légende. Mmh. Si on prend les héros, on peut aussi citer Jérémy Morel pour son but contre Beşiktaş, qui pour moi est un des plus grands moments des 2, 3, 4 dernières années.
Moi, je tiens à ce qu'on réhabilite Jérémy Morel. J'adore ce joueur depuis Lorient, même si à Marseille, il a été décrié, à Lyon, il a été décrié. Mais moi, j'adore ce joueur. Et en fait, même face à l'adversité, il est toujours là. Sur la diversité des...
Après, j'ai une théorie sur Morel parce que je suis fasciné par le fait que des grands techniciens en soient fans, c'est-à-dire Gourcuff et Bielsa. Et je pense que c'est un mec qui sait toujours très bien ce qu'il faut faire, mais qui ne sait pas forcément le faire.
Moi, j'ai une autre raison.
Des fois, il voit un mec qui est effectivement bien placé dans l'axe, il va tenter la petite passe, mais sauf qu'il va la donner à l'attaquant. Quoi.
Moi, j'ai une autre raison d'affection vers Jérémy Morel, c'est que pour moi, Jérémy Morel, c'est une sorte de loser magnifique. C'est un mec qui n'a pas demandé à être là. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à être titulaire indiscutable en défense centrale avec Bielsa, alors qu'il était latéral gauche, gentil à Lorient, tranquillou. Mm-hmm. Et il n'a pas non plus demandé à être défenseur titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais à 33 piges. C'est un mec, il est
en
là...
En demi-finale de Coupe d'Europe.
Ouais. Voilà, ouais, en demi-finale plus. De Coupe d'Europe. Il sait pas, il a rien demandé, ce pauvre Jérémy Morel. Tu vois ce que je veux dire ? À mon avis, il aurait été très content de continuer à bouffer des sardines à Lorient. Et il s'est retrouvé dans des situations loufoques sans qu'il l'ait vraiment réclamé. Tu vois. Là, il va quand même faire la canne avec le Madagascar. C'est
incroyable.
Pour moi, c'est une histoire incroyable, Jérémy Morel.
Et on parle d'international, donc vous l'avez cité tous les deux. Celui que j'ai pas mis, c'est Umtiti. On entend souvent, on lit souvent sur les réseaux sociaux que dès le départ, on dit que les supporters lyonnais avaient vu son potentiel. Moi, je crois la première action qui me revient en tête quand je pense à lui, c'est quand il jouait pas encore dans l'axe, il jouait arrière gauche, je crois, c'est ça. Et cette frappe monstrueuse, mais vraiment monstrueuse contre Tottenham en Europa League. Bim, dans la lucarne et tout, c'est comme ça. Moi, c'est Umtiti, il s'est fait connaître comme ça. Pour moi, c'est cette frappe-là. Et je ne pensais pas que ça allait être un joueur aussi important, aussi fort, vraiment défensivement. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah si, Pierre. Quand on l'a vu arriver, en fait, il a tout changé. Quoi. C'était, j'étais tout le temps à Gerland et je me souviens, par exemple, à chaque fois que le ballon était arrivé vers les défenseurs, genre mettons Bakokoné, je vois très bien c'était pas une blague. Je vois très bien Gonalon qui venait genre pas loin en se disant on sait jamais, il y aura peut-être besoin quoi. Et en fait avec Umtiti, que la balle arrive à terre, au sol ou je sais pas quoi, n'importe comment, une chandelle, et en fait Gonalon il se replaçait tout de suite parce qu'il savait que l'autre allait faire contrôle, tac, avancer, faire une passe propre, et du coup il a apporté cette espèce de sérénité incroyable. Après il avait quand même des défauts, on ne le disait pas à l'époque, maintenant on peut le dire, mais non, c'est-à-dire que c'est un mec qui était tellement fort dans l'anticipation qu'en fait il avait quasiment jamais joué un duel de sa jeunesse, ouais. Et donc au départ il s'est un peu fait quand il se retrouve à la baston face à Giroud, Brandao ou deux trois autres mecs, il a un peu parfois galéré face à ces profils là mais bon, vu que c'est quand même une belle nature, il s'est mis au duel et il est devenu hyper complet.
Ouais, surtout, Umtiti, il débarque à Lyon. Deux choses. La première, c'est qu'il débarque dans une période de pénurie en défense centrale du côté de l'OL. C'est dramatique. On sortait de Kleber Anderson, de Bakokoné, de Mapou. Enfin, c'était une catastrophe. Et là éclot Umtiti, si tu veux. Et l'autre truc, c'est que c'est un défenseur central qui n'est pas du tout dans le modèle... un peu franchouillard du bourrin à la Mangala, tu vois. Umtiti débarque et puis c'est un défenseur élégant, c'est un relanceur, c'est et là comme dit Pierre, tout change quoi, toute ton approche de la relance change grâce à Umtiti. Il te fait gagner un joueur en fait.
Ouais, c'est fou,
c'est pour ça qu'il a une place aussi importante dans nos cœurs.
Mais le mec à 19 ans, je le voyais tu sais, le moment où il commence un peu à perdre la balle, à savoir tomber pour obtenir la faute, tu vois. Enfin, genre, le mec, tu dis, mais t'es un monstre.
Il l'a sublimé au Barça, d'ailleurs. Je vous invite à voir la compilation sur Internet. Il y a une compilation des chutes d'Umtiti pour obtenir des fautes en défense. Elle est absolument magnifique.
Ah bah, tu vois, je ne savais pas. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a tout de suite marqué. Je l'ai tout de suite vu, cette espèce de feinte.
T'as vu le vice.
Cette fin de daron.
Ah, ouais. Le vice, on en a non, mais il pas avait, souvent. Hein.
Ouais.
Il avait le vice, le charisme. Tout de suite, le mec s'est mis à parler. Et ça, c'est un truc qu'on verra aussi avec, enfin, qu'on a vu aussi avec Lacazette. C'est-à-dire des mecs qui étaient assez naturellement capitaines. Mmh. Bon, alors après, ils étaient jeunes, ils étaient noirs, donc ça n'avait pas l'air sérieux de leur donner le brassard, tu vois, j'ai l'impression. Mais c'était clairement eux les mecs les plus charismatiques du groupe, quoi, tu vois.
Moi, ouais, top. Bon, en tout cas, ça donne une belle défense là sur le papier. Donc, je récapitule. Donc, à gauche, arrière-gauche, on a Eric Abidal. Dans l'axe, Umtiti et Chris. Et à droite, on a Raymond Domenech. Voilà. Donc, on a un ancien Raymond. Il y a un tout récent, Umtiti. C'est, je sais pas, ce sera le joueur le plus récent qu'on aura dans ce 11 de légende. Mais c'est cool de voir que des joueurs qui sont passés il n'y a pas très longtemps dans le club peuvent intégrer quand même un 11 de légende de l'OL, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, on va enchaîner sur l'autre ligne, qui est celle du milieu de terrain. Donc on a trois noms à sortir. Je vais commencer, si vous voulez bien. Alors pour moi, l'indiscutable, je pense que vous l'avez mis aussi, c'est Juninho.
Oui.
Je pense qu'on peut... voilà, les coups francs, la longévité... bref.
Faut-il vraiment en parler ?
Voilà, c'est exactement. Faut-il peut, vraiment parler de Juninho
Si, on peut en parler un peu, ouais. Parce qu'il y a juste un truc à réhabiliter, c'est que c'est un excellent joueur de foot.
Ouais, c'est les gens ont un peu oublié. On a tendance à oublier que c'est un excellent joueur de foot et pas qu'un simple tireur de coup franc.
C'est un mec qui bastonne un peu, qui est tactiquement hyper fort, techniquement très très fin. Enfin, je veux dire,
et un leader surtout.
Et, ouais.
Un leader de tout, de jeu, de vestiaire. C'était justement, tu parlais de Chris.
Ouais.
Dans la même interview, c'était chez Winamax, il dit que Juninho était un terrible mauvais perdant. Qu'il supportait pas la défaite, que c'était un calculateur hors pair, qu'au début de la saison, il te sort le calendrier et il dit « Là, 37e journée, en l'occurrence, c'était pas 37e, là, 32e journée, on est champion, à domicile, on n'est pas champion à 33e. » C'était un mec qui, tout était cadré dans sa tête et la défaite, c'était impossible pour lui. Et d'ailleurs, dès qu'il part, c'est la cata.
Effectivement. Donc juste pour finir mon petit milieu à 3, donc Juninho en 8, ensuite, j'avoue que j'ai mis deux défensifs quand même. Bon, on va dire qu'on fait 2-1. Donc, Diarra et Makoun. Diarra, parce que, bon, monstrueux. Et Jean de Makoun, je sais très bien. J'ai vu ta mine, Charlie, en mode de, qu'est-ce que tu nous racontes là? Non, Makoun, je l'ai mis vraiment pour le kiff. Moi, je me rappelle de ce but contre le Real Madrid en 8e de finale de retour de la Ligue des Champions. J'étais avec des potes, on venait de faire un five et tout. Et on se pose devant le match. On était vraiment un peu tous. Voilà, je portais un peu l'équipe française et tout. et on voit cette frappe, enfin je sais plus si c'est une frappe, bref je me rappelle même plus de l'action tellement on a crié, on voit ce but de Makoun, on fait waouh, truc de fou, ils vont le faire et ils l'ont fait. Et juste pour ça, voilà, je voulais le mettre. C'est un joueur que j'aimais bien à Lille. À Lyon, je suis pas, dans mes souvenirs, il a pas été hyper, hyper fort. Mais voilà, juste pour le mettre, pour compléter. Parce que je sais très bien que vous l'aurez pas mis. Donc voilà, on part sur ça. Diarra, Makoun, Juninho, Pierre.
Bah écoute, on te pardonne, enfin en tout cas moi, largement ta petite blague. Parce que je suis très, très content que tu aies mis Djila Diarra en 6.
Ouais.
Je crois que c'est un de mes joueurs préférés de l'OL. Enfin, il était hyper beau à voir, hyper élégant, super fort, mais sec, c'est-à-dire pas du tout une masse, quoi. Mmh. Et puis, il avait une qualité de ballon qui était exceptionnelle. Et ça, les gens, enfin, il n'en perdait jamais une, quoi. Et il a envoyé indifféremment à gauche, à droite. Enfin, j'ai adoré ce joueur. Et en plus, après, je pensais qu'il, dans l'imaginaire, y compris dans le mien, qu'il n'avait pas tellement cartonné au Real. Alors, évidemment, ce n'était pas le Real de ces 6 dernières années, mais... Mais en fait, si, les deux premières saisons, il joue aussi beaucoup. Et ouais. Tout,
il marque un but pour le titre, je crois. Je ne sais pas si c'est lors de la première ou la deuxième saison, titre pour le Real.
Ouais, donc, le titre avec Capello. Là, c'est leur équipe. Bah, mais en fait, c'est que l'équipe, elle n'est pas du tout glam. Donc, on l'a presque un peu oublié. Mais un joueur fantastique. Quoi, et les mecs, quand ils l'ont vu débarquer, donc ils ne le connaissent absolument pas. Il vient d'où de
Vitesse. De c'est Rennes, pas Vitesse, Vitesse Arnhem, Vitesse Arnhem. Ouais, c'est ça.
Et Bréché, il m'en a parlé. Carrière, il m'en a parlé. Après, les mecs ont halluciné quoi, de voir ce monstre.
Donc, tu mets Diarra aussi dans ton milieu.
Ouais.
Ouais. Et pour compléter
je mets Serge Chiesa en 8. Parce que Serge Chiesa, c'est évidemment un joueur que je n'ai jamais vu. Mais
c'est le joueur le plus capé. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas le joueur qui a joué le plus de matchs.
Avec l'OL.
Ouais.
Ouais, je saurais même pas te dire. Je veux pas dire bêtises, mais en tout cas, ouais. Il en a fait. Ouais.
À vérifier, il me semble que c'est ça. Ouais.
Et surtout, il incarne super bien une idée de Lyon, parce que c'est quand même un mec qui va refuser l'équipe de France parce que ça le fait un peu chier de se barrer au rassemblement, quoi. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer à Lyon, tu vois, rester à la maison avec sa femme. Et ça, c'est un truc qui, finalement, on a presque l'impression aujourd'hui, ça fait presque digérer la pilule Lacazette ou deux, trois autres comme ça, parce qu'on se dit, bon, bah finalement, c'est une histoire de Lyon, comme s'il avait dit fuck à Deschamps en avance, quoi, tu vois.
Mais c'est aussi une certaine idée du football d'avant.
Et après,
voilà.
c'est un très beau. En plus, vraiment, pour le coup, il peut vraiment jouer. Enfin, c'est un 8, quoi, et super beau footballeur.
Top.
Et puis culte, quoi. Et puis, en fait, le truc, c'est que quand on va se retrouver aux attaquants, on n'aura pas de place pour Dinalo, donc ça permet au moins aussi de mettre un mec de strident offensif assez exceptionnel.
Ou pas, spoiler, on verra. Charlie, pour ton milieu à 3 ?
Moi, il n'y a pas de débat sur Juninho et Diarra. Ouais. Par contre, ensuite, pour la troisième place, j'ai plein de noms qui viennent en tête, plein. Le premier qui me semble obligatoire au moins de citer, c'est Michael Essien.
Oui, Mike.
Qui était pareil, on a fait l'éloge de Djila Diarra, mais Mike Alessien, c'était grandiose aussi. Mm. Il avait tout. C'est un mec il avait toute la palette du footballeur. Il pouvait tout faire, quoi.
C'est presque pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que, évidemment, je le kiffe, mais le mec m'impressionne tellement. Enfin, je veux dire, après, pour lui, il est quasiment robotique. Du coup, j'y vois presque plus d'humanité. Je dis, bon, bah, ok, t'as pas de faille.
Est-ce qu'on peut dire, je t'interromps, Charlie, et je t'interromps, Pierre aussi. Est-ce qu'on peut dire que ce milieu-là, Juninho, Essien, Diarra, c'est le meilleur milieu de l'histoire de l'OL et temps le meilleur milieu d'Europe, en fait?
En fait, c'est bizarre parce que Thiago va remplacer Essien et l'équipe va s'adapter, va changer avec avec le changement de profil et le milieu est aussi hyper sexe. Donc,
Moi, je ne saurais pas choisir entre les deux.
Entre Thiago et Essien?
Entre Thiago et Essien, c'est deux joueurs magiques. Beau dans les deux sens, et si un plus puissant que Thiago qui est dans l'élégance pure, mais ces deux milieux là, comme dit Pierre, s'adaptent, ces deux styles de jeu qui sont différents mais qui sont tous les deux aussi puissants, aussi forts. Et quant à la question de est-ce que Lyon est le meilleur milieu d'Europe à ce moment là, je saurais pas te dire oui ou non. En tout cas, peut-être le plus beau à avoir joué, je dirais oui.
Moi, je mets une pièce sur oui quand même pour ce milieu là qui était vraiment impressionnant.
Qui terrorise l'Europe.
Après, il y a quand même eu un milieu sous Le Guen, si je ne dis pas de bêtises. Et peut-être que Santini l'a fait un peu. Il y a eu le milieu avec Juninho, Carrière, Dorasso.
Ouh, oui.
Derrière deux attaquants, quoi, avec un seul 6. Et là, c'était quand même plutôt assez sympa. Et du coup, c'est quand même pas mal de citer ces mecs-là aussi.
Ouais, j'avais mis Dorasso aussi, effectivement. Carrière.
Il fallait mettre Carrière aussi. Ouais. Bon, il fallait au moins le citer, parce que pareil, c'est un joueur qui n'a pas eu la... Enfin, on parlait de Coupé. Carrière, c'est pareil. C'est un mec qui, malheureusement, a joué à la même époque que Zinedine Zidane, quoi.
Ouais, ça fait partie de ces mecs-là, comme Miku.
10 sélections, 5 buts.
Ouais, c'est terrible quand même.
Comme Miku, c'est des genres de profils qui n'ont pas pu profiter plus de l'équipe de France à cause de... Enfin, à cause. Parce que Zinedine Zidane était là.
Pas de bol.
Ouais, et dommage.
Donc, il y a un 8 que tu vas citer, j'imagine.
De quoi, tu veux parler d'Oussem Aouar?
Non, ah ben, non, je pense qu'on peut citer Oussem Aouar. Alors, pour l'instant, c'est peut-être encore plus que...
C'était encore un peu tôt, non?
Prédiction, non, mais je te laisse citer ton...
Ah, tu voulais que je cite Kim Kallström?
Mais non, mais Malbranck, je te
laisse. Ah, pardon, excuse-moi.
vous avez préparé l'émission.
Ouais, non, mais on parlait un peu de la différence entre joueurs de légende et héros du club. Mm-hmm. Voilà, si on prend les héros, Makoun rentre dedans. Ouais. Parce qu'il est dans l'imaginaire collectif de l'OL. On pense à Makoun quand on pense aux exploits européens de l'OL. On pense à Pjanic aussi.
Ah,
dans
Pjanic.
Le même genre. Bon, après, on peut le mettre en ailier aussi. Mais pour moi, il y a un joueur qui, pareil, n'a pas sa place dans le milieu de légende pour des raisons évidentes, mais qui est un héros, c'est Steve Malbranck. Il revient et il fait 6 mois de... Mais c'est magique. C'est
magique. Je me rappelle d'un match qui m'a fait très mal. C'est contre Marseille, je crois, où il marche sur l'Olympique de Marseille. Ouais. C'est incroyable.
Ah, mais il a marché sur la Ligue 1 pendant 6 mois. C'était grandiose.
Oh, on en parlait même en équipe de France et tout.
Après, c'était une espèce de blague parce qu'il avait 32 ans, donc il n'allait pas revenir en équipe de France. Moi, j'aurais trouvé que c'était pas volé. Parce qu'à l'époque, on a parlé de la Lassana Diarra qui est revenu en équipe de France.
Oui.
Mais en soi, et je vais encore avoir cette opinion un peu tranchée, qui est que la Lassana Diarra, pareil, il a fait 6 mois exceptionnels. Mmh. Il est mérité d'aller en équipe de France. Mais Malbranck, il a fait pareil. Hein. Et il n'a pas eu sa chance là. Et
je pense que sur les années, sur les années 2010, j'échangerai deux trophées qui n'existent pas. je n'échangerai pas les 6 premiers mois de Malbranck et l'histoire que c'est. C'est un mec qui plante Saint-Etienne parce qu'il s'y fait chier. Il prend une année sabbatique. Il revient pour, on le dit, t'as le droit de t'entraîner avec la réserve si tu veux te faire un peu les jambes. Et en fait, non, tu vas peut-être signer un contrat. Ah, et en fait, t'es exceptionnel. Mais tout de suite, dès le premier match, je sais plus si c'est contre Valenciennes ou si c'est le deuxième.
C'est un peu avant, ouais. C'est Valenciennes, c'est Grenier.
Et c'était merveilleux, quoi. Mmh.
Comme dit Pierre, on part d'un mec qui plante Saint-Etienne, prend une année sabbatique et qui, un ou deux ans plus tard, se retrouve en marquage individuel face à André Pierlot, quoi. C'est grandiose.
Magnifique.
Qui dira cette magnifique anecdote, Pierlot, il dit... Quand je suis monté dans le car, il était encore à côté de moi, quoi.
Magnifique. Et à Lyon, je voulais parler un petit peu de sortir quelques noms, vous me dites, pour vous faire réagir. Gourcuff.
Non.
Non.
Bah, on peut pas le mettre
non,
dans
pas
de
pour
légende.
Le mettre, mais juste pour vous faire réagir.
Non, non,
à
après,
ces noms-là.
Ça a été un joueur absolument sur les deux dernières saisons qu'il fait.
C'est une comète, en fait.
Oui, mais à chaque fois qu'il joue...
Oui, justement.
Il est, à chaque fois qu'il joue, les rares fois qu'il joue, il est très bon. Et surtout, et c'est là où c'est le vrai meneur de jeu quasi ultime, tout le monde est bon quand il est là. Enfin, c'est cette sensation que ça donne là. C'est-à-dire qu'il rend tout le monde meilleur. C'est vraiment le playmaker, quoi.
Pareil, je me rappelle d'un match contre l'OM où il marque. Voilà, excellent. Et... comment vous l'avez vécu?
Le match où il rentre à la place de Guezal, non?
Je sais plus du tout. Si, je crois qu'il rentre. Si, je crois que c'est un match où il rentre, non?
Contre l'OM.
Si, un match contre l'OM.
Il y a un match contre l'OM où il remplace Guezal à la 35e, parce que Guezal est infâme, je crois. Je me trompe.
Ah, j'ai plus l'année exactement, mais il me semble que c'est contre l'OM et il fait vraiment. Il met un but en tout cas.
Oui, bah, c'est Imboula, là.
Non, mais c'est contre sur Imboula. Mais ça, c'est le. Bon, là, c'est pareil, ça, c'est un super hold-up parce que le match. Je crois que c'est un des plus beaux matchs de l'ère de Bielsa, sauf qu'il n'y a pas de but, mais.
Ouais.
Mais Gourcuff, c'est terni par le fait que c'est quand même un monstrueux flop à l'OL. Mmh. Mais effectivement, il est là à des moments où d'histoire. Enfin, on va parler de Briand plus tard nécessairement. La passe D, c'est Gourcuff. Et du coup, il est quand même à l'origine de peut-être un des plus grands moments de l'OL des 10 dernières années, quoi.
Et puis surtout, il est dans le milieu en losange qu'on a appelé de nos voeux pendant 2 ans et demi et qui a fini par enfin exister.
La 4G.
La 4G, ouais, Gonalon, Grenier, Fofana, enfin Gaïda du coup, mais Fofana et
Gourcuff
en 10. Ça marche. Et
c'est donc le milieu absolument fabuleux qui va jouer 9 fois ensemble, gagner 7 fois, faire 2 nuls un peu idiots et tous les mecs vont tomber les uns après les autres, sauf Gonalon.
Ouais, justement c'était mon autre nom. Gonalon, votre ressenti sur ce joueur-là? Moi, je le vois un peu comme un joueur de devoir. Je ne sais pas comment vous le voyez, tout simplement.
En fait, je vois comme un très beau symbole de l'OL des années 2010, c'est-à-dire un mec qui était pas mal et qui n'a pas progressé parce qu'il n'a jamais croisé de grand entraîneur. Quoi. Mmh. Et du coup, il est devenu pas moyen, mais en plus, après, il a incarné, on s'est mis à l'associer avec le fait qu'on se faisait chier. Il s'est trouvé à avoir mauvaise presse, mais, mais il était, ça a été un joueur hyper important jusqu'en 2014-15, quoi. Ouais. Après, il y a une forme de... Ça, il a à la fois stagné, voire même régressé. Il s'est caché là où il était plus intéressant. Alors, je pense qu'on n'en aurait jamais fait Thiago Motta, mais c'était, je pense qu'il aurait été bien meilleur s'il avait croisé des meilleurs entraîneurs.
Quoi. Ouais. Et Aouar, Charlie?
Aouar, il est trop jeune pour l'instant pour être dans le débat.
Mais sur ce qu'on peut voir là depuis ces dernières saisons, est-ce que voilà, ce qu'il a montré, ce qu'il continue de montrer, ça vous fait croire qu'il peut intégrer à terme ce trio-là?
Bah, je voudrais qu'il y arrive parce que je ne peux pas comparer Aouar et Gonalon, c'est quand même deux profils très différents. Mais je voudrais qu'il lui arrive ce qui n'est pas arrivé à Gonalon, c'est-à-dire croiser un mec à Lyon, c'est-à-dire avant de partir, ce qui a priori est son destin, qu'en face une véritable balle, quoi, tu vois, qu'en tire le meilleur.
Aouar, faut bien voir qu'on est sur un gamin, il a quoi, 20 piges là?
Ouais.
Qui est exceptionnel, qui a des moments de mou, évidemment, il est jeune, qui a le malheur d'être dans une équipe qui ne tourne pas bien en termes de football.
Ouais.
Et qui surtout a le malheur d'être aligné à des postes qui ne sont pas les siens. À l'OL, il n'a quasiment jamais joué à son poste de base qui est numéro 10. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau à voir jouer quand il est numéro 8, mais quand il est numéro 8, ce n'est pas naturel pour lui. Il n'est pas là où il doit être. Donc ça veut dire que ce qu'il montre actuellement, en étant bon, quand il a des périodes de plusieurs mois où il est magnifique à voir jouer, ce n'est pas son poste. Donc moi, j'aimerais, comme Pierre, le voir, voir Oussem Aouar dans un dispositif qui le met dans les meilleures dispositions.
Mmh.
Parce que son poste, ce n'est pas relayeur, ce n'est pas meneur de jeu en retrait. Et ça, malheureusement, voilà.
Bah comme... Après, il pourrait, si c'était avec Guardiola, oui, ou je ne sais quoi. Mais effectivement, là, il y a deux mecs. Si tu as Aouar, si tu prends le système du match contre Rennes mardi soir, tu as Aouar qui est 8 et Fekir qui est 10. Et effectivement, ils devraient tous les deux être un cran au-dessus pour qu'on en tire le meilleur. Bah, sauf que l'effectif a été un peu mal fait ou mal géré, en tout cas, et du coup, tu n'as pas cette possibilité. Ce qui attise une énorme frustration aussi, quand même, chez les Lyonnais depuis 2-3 ans.
Quoi. Mmh. Et donc, du coup, là, sur notre milieu de terrain, on a Juninho, Diarra, de sûr, mais il manque le troisième. Donc, il va falloir trancher. J'avoue que...
C'est toi qui décides.
Non, on va décider collégialement. J'avoue que Thiago est sien... Il y a débat.
Chiesa, moi, je pense que, honnêtement, je tiens un peu parce que ça donne une connotation un peu plus légende.
Puis ça nous fera moins passer pour des gamins.
Ouais.
c'est un vrai 8, c'est-à-dire qu'on a un milieu hyper, hyper, hyper équilibré. Et puis c'est un mec qui est resté longtemps, alors que Essien et Thiago, ils sont restés 2 ans chacun.
Ouais.
Et on les remercie. Hein, mais
Il y a un mec qu'on n'a pas cité, mais il faut juste mentionner son nom, c'est Jérémy Toulalan quand même.
Oui.
T'es pas du niveau de Diarra, mais voilà, fallait quand même balancer le nom dans la balance, à mon sens.
Mais qui arrive dans les années où Lyon ne gagne plus.
Alors c'est bizarre parce qu'effectivement,
il est là sur la fin.
Mais il est là pendant le premier semestre 2006-2007, qui est une sorte de c'est dommage, c'est la saison à l'envers, mais qui est une sorte de semestre absolument parfait. C'est-à-dire que ils rebattent le Real comme d'hab, mais là, genre, il n'y a même pas de match non plus. Il gagne tous les matchs en Ligue 1. Et effectivement, c'est plus Gila, c'est Toulalan qui est titulaire à ce moment-là. Donc, il appartient à une sorte d'équipe mutante, mais qui va exploser en plein.
Puis après, il accompagne le déclin, malheureusement.
Ah, donc, il gagne le dernier le titre en 2007. Ah, ok.
Il en gagne deux, même.
Ouais, 2007-2008, pour le coup. Très bien. Donc, juste récapitule, du coup, ce milieu de terrain qu'on a clôturé un peu comme ça. Donc, Juninho, Diarra et Chiesa, du coup, pour former ce trio. C'est pas mal du tout. On a un peu les deux grosses époques, donc c'est cool. Et du coup, on va avancer sur les attaquants. Alors là,
on a 4 heures.
Voilà. À Lyon, les attaquants, il y en a eu beaucoup, 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 et il y en a encore. Alors, qui veut se lancer sur son premier trio? Charlie.
Je pense qu'il y en a un sur lequel on sera d'accord parce qu'il représente une époque.
Un nom, vas-y.
Bah, c'est Sidney Govou.
Govou, il fait l'unanimité.
Pour moi, il fait l'unanimité, pas parce que c'est le meilleur de sa génération et tout ça.
Exactement.
Mais pour ce qu'il représente.
Ouais.
Pour moi, Govou, mon deuxième prénom c'est Sidney de base, donc je ne peux que l'aimer. Mais pour moi, Govou représente tout. Il représente l'OL pur lyonnais. Il représente une certaine idée du football d'avant, espèce de football nonchalant, l'hygiène de vie un peu pas ouf, mais le talent
pur. Tu veux bien rappeler son surnom
Il n'aime pas ça en plus, ouais. Son surnom, voilà, Whisky Coca.
Voilà.
Mais il marque le premier but de la finale contre Lens en 2002.
Enfin, juste pour précision, pour les plus jeunes peut-être qui nous écoutent, ce n'est pas une vraie finale, mais c'était le dernier match, 38e journée de championnat.
C'était une finale pour
le championnat. Lens, du coup, c'est le vainqueur. Voilà. Était champion de France, ouais.
Et il marque ce premier but à la 8e minute, je crois. Où le commentaire de Grégoire Margoton, c'est du karaoké, quoi. Je peux te le ressortir, voilà. C'est tu me donnes 4 pintes et je te fais le but de Sidney Govou a cappella, quoi. Et pour moi, il représente vraiment le football lyonnais de l'époque. Et voilà, enfin, pour moi, il n'est pas contestable, Govou, là-dessus.
Govou, pareil, pour moi, c'est un peu pour les mêmes raisons que toi, c'est pas le footballeur le plus flamboyant techniquement et tout, mais sa longévité.
Après, il est hyper inventif. Enfin, c'est vraiment, il a une part d'instinct. Ce qui est un truc.
C'est un excellent joueur quand même.
Ouais. Il y a vachement, Lacazette a vachement pris de Govou, quoi. Cette façon de pouvoir marquer un peu dans tous les sens.
C'est ce que je veux dire. C'est la combativité. Une façon de marquer. Il a une manière de marquer dans des matchs aussi très importants, que ce soit à Lyon ou en équipe de France. Et il a souvent été très décisif et on a peut-être tendance un peu à l'oublier, mais c'est un joueur qui marquait quand même des buts pour Lyon. Et même, j'ai envie de retenir aussi sa longévité, parce que le mec, il est resté pendant très longtemps. Et il me fait penser aussi un peu à Chris, dans la manière dont tu l'as décrit, c'est-à-dire que
c'était quelques années de trop. Ouais.
Voilà, quelques années de trop. Et aussi dans le fait que
il y avait pas à Lyon, en tout cas.
Non, pas à Lyon.
Non, mais il y avait des clubs qui... Il n'y avait pas de grands clubs qui se positionnaient sur lui. Et du coup, il a pu rester et faire sa carrière à Lyon. C'est aussi ça que je voulais souligner.
Son seul regret, c'est de ne pas être allé au Real. Et ça s'est présenté au moment où en fait, finalement, alors je ne sais pas pourquoi il n'y va pas. Et du coup, c'est Faubert qui y va. Mais le choix initial, c'était Govou.
C'est peut-être mieux qu'il soit resté à Lyon, non?
Ouais, je pense que lui, ça l'aurait ça lui aurait quand même pas mal fait kiffer d'aller faire un tour au Real, je crois.
J'imagine. Toi aussi, t'as mis Govou, du coup, en
Moi aussi, ça m'aurait pas mal fait kiffer d'aller jouer au Real.
Ouais. Juste pour finir sur Govou, toi, tu disais tout à l'heure que dans ton imaginaire à toi, avec Coupé, la France était championne du monde. Dans mon imaginaire à moi, avec Govou en 2006, on est champion du monde aussi. Mais j'ai aucun argument pour étayer ça.
Hein, ok.
Mais...
Le
c'est,
bon sens.
C'est juste de l'instinct. Ouais, c'est voilà. Ça vient de l'intérieur.
Non, parce que quelques mois plus tard, il met deux buts. Voilà,
contre l'Italie. Ouais. Voilà, donc, fabuleux ce match d'ailleurs.
Il rentre à tous les matchs à Coupe du Monde du 6, sauf à la finale.
Bah, voilà. Bah, voilà,
voilà, c'est ça ton explication. Le seul match qu'on perd, au tir au but, voilà, c'est celui où Govou ne rentre pas. J'avais pas cette anecdote.
Moi, je me souviens d'un groupe Facebook qui était à l'époque, c'était la grande mode des groupes Facebook à la con. Je me souviens, c'était il y a 10-15 ans.
C'est toi aussi.
Ouais, et il y avait un groupe Facebook qui était vachement suivi qui s'appelait Seul Sidney Govou peut nous sortir de cette merde. À l'époque où l'équipe de France était en décrépitude, quelques années plus tard.
Incroyable. Incroyable. Et du coup, pour compléter ton trio à part Govou, du coup, qui fait l'unanimité qu'on va mettre à droite, pas de souci.
Bon, Benzema déjà. Tout de suite.
Ok. Benzo. Benzema, ouais. Il reste pas très longtemps pourtant. Mais...
Non, mais.
Ah, quand même.
Il reste 4 ans, 5 ans, 4 ans
Il se barre en
2009. Ouais.
Et il commence en 2005, donc il fait. Il fait 4 ans et demi, ouais.
Mais vraiment. En tant que titulaire plein, il fait que 2 saisons, il me semble.
Ouais, mais il est énorme.
Ouais, ouais, mais 2,5, puis même, c'est pas, encore une fois, c'est déjà, il y a le niveau.
Je dis ça, mais moi, je pourrais mettre Drogba dans mon équipe de l'OM alors qu'il a fait qu'une saison. Donc je
Après, voilà,
parfaitement,
on parle pas avec des chiffres, on parle avec le cœur. Ouais. Et encore une fois, c'est un peu comme Titi, dans le sens où il arrive à une période où Lyon cherche un neuf désespérément et qu'il arrive presque 2-3 ans trop tard. Mais au moment où il éclot, il est jeune, il a des couilles, mais c'est incroyable. Il a ce but à Saint-Etienne. Lyon est mené 1-0 et il prend le ballon, il pose le ballon, puis boum, il te le met dans la lucarne. Et puis voilà. Et encore une fois, il y a ce commentaire de Margoton qui dit il n'a que 20 ans. Ouais, il a que 20 ans, il prend le ballon, il le pose et il égalise dans un derby. Et puis même, il y a des moments comme ça à Lyon, on en a des tonnes avec Benzema, des moments où il a 20 piges, il a une tête de gamin encore. Et il dégage une aura. Tu te dis, avec ce mec-là, il peut rien t'arriver.
Ouais, mais tu as dit un truc hyper intéressant, c'est qu'il est arrivé trop tard. C'est que pendant moi, toutes mes années collège où Lyon était vraiment au top, collège, lycée. À chaque fois, quand on scrutait un peu les rumeurs mercato, c'était la recherche de l'attaquant. Maintenant, on dit le grand attaquant, mais ça a toujours été ça. Il y a eu Giovanni Elbert, Barros, je ne sais pas si vous l'avez recruté en neuf ou pas. Ouais, ouais. Carou, Fred, c'est avant ou c'est après?
Fred, c'est avant.
C'est avant. Enfin, tous ces profils de joueurs qui n'ont pas été aussi efficaces que ce que le club espérait. Et là, des années après, tu as un jeune gamin, comme tu le dis, de 20 ans, qui arrive et qui, en fait, est un giga crack. Et c'est déjà un peu trop tard. Il a un titre avec Lyon, mais c'est déjà trop tard.
Mais ça, c'est la grande malédiction de Lyon, qui est que les grandes années de Lyon, tu n'as aucun neuf. Tu joues avec Wiltord en neuf, tu joues avec Carou, des frais de ça. Mm. Et derrière, quelques années plus tard, tu te retrouves à jouer avec 4 neufs sur le terrain. En même temps, c'était quoi? C'était Briand, Lacazette, Lisandro et Gomis dans la même équipe. parfois même ensemble, tu vois. Donc c'est vraiment la grande malédiction de se dire, bon bah voilà, ils arrivent trop tard, c'est comme ouais. Le ketchup, tu vois. C'est ça met 1000 ans à arriver, puis boum, là t'en as 15 des neufs, tu vois.
En fait, c'est bizarre parce que, c'est bizarre ou triste d'ailleurs, Andersen se barre en 2003. Ouais. Et le premier match de... Donc il se barre l'été 2003, et le premier match de Benzema, c'est en janvier 2005. Bon, là, il n'est pas encore prêt pour être titulaire, évidemment, pour la Ligue des Champions, parce qu'il a 17 ans. Mais, et le problème, c'est que c'est entre ces deux générations qu'il y a eu la plus grosse équipe de l'OL, quoi. Et les deux meilleurs neufs de l'histoire l'entourent comme une parenthèse, quoi. Mais vraiment, exactement, quoi. Genre au mois près, quoi, limite, quoi.
Mm-hmm. Toi aussi, tu mets Benzema, Pierre?
Ouais, je mets Benzema et je pense qu'il va du coup se retrouver en faux ailier gauche si on fait 3-3, parce que en pointe, il fait pas du tout partie de mon 11 de cœur, mais Andersen, tu peux pas t'en passer. Déjà parce que c'est un joueur qui est super beau à avoir joué déjà.
Et, déjà.
C'est pas juste un
grinta quoi.
Ouais.
Et puis la technique, enfin tu vois, puis même comme il est foutu, tu as l'impression que le mec il
ça te frappe
danse,
le PSG là, limpide.
Je sais pas si vous partagez mon point de vue sur Andersen. Pour moi, je le comparerais dans l'impact à un Zlatan au PSG. Au PSG version Qatari, c'est-à-dire que c'est pour moi le joueur qui symbolise un peu le passage, pour le coup pour Lyon, c'était pas pareil pour Paris, mais le passage de ce club qui est un bon club de Ligue 1, vraiment qui est confirmé comme un bon club de Ligue 1, c'est le joueur qui va le faire passer dans cette dimension, voilà, d'être très très bon et on va chercher la gagne, on va chercher les titres. Pour moi, c'est vraiment Sonny Anderson qui l'incarne, c'est vraiment le joueur bascule. C'est pour ça que je le mets là, en plus de son talent énorme. C'est vraiment, pour moi, il était indiscutable sur le front de l'attaque lyonnaise.
Ouais, il a grave assumé parce qu'il arrive donc d'une saison ou deux merdique à Barcelone. Donc on ne sait jamais comment on ressort de ces périodes-là, quoi. Est-ce que c'est parce que le mec a eu une saison merdique parce qu'on l'a mal fait jouer ou il y avait trop de concurrence, ou est-ce qu'il est déjà un peu cramé? Et donc il arrive comme une star, il coûte cher. Et le mec va assumer, il va tout de suite poser les bases en étant meilleur buteur du championnat pendant 2 ans. Et après, il va accompagner les deux titres, les 2 années où il est champion. C'est même là où il est moins fort, mais tu vois, il a quand même il a emmené cette équipe jusque-là. Et pour ça, on peut pas s'en passer. Puis c'est un mec qui est resté lié à Lyon. Enfin, tu vois, il y vit encore. Alors que finalement, il n'est pas resté sur le terrain, il est resté que 4 ans, je crois. Mais il est, voilà, bon, c'est un vrai Lyonnais, et puis c'est un vrai neuf qui sait jouer avec les autres, ce qui est aussi une tradition. Après, quand on va balayer les autres attaquants, c'est vraiment une tradition lyonnaise du neuf qui est quasiment un 10 dans sa tête, et ça, c'est une vraie tradition. Donc il incarne parfaitement ça.
Ouais.
Donc il est dans un 11 de légende, il est relativement incontestable, alors que moi, il fait pas du tout partie de mes joueurs préférés
tous les temps. Ouais. Bah, là, on part sur du Govou, si j'ai bien compris, Andersen, Benzema. Moi, j'ai mis un joueur pour le côté que je n'ai pas vu jouer, et pour effectivement ce qui c'est des années 60-70, c'est Floridinalo, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, et qui n'a pas le meilleur ratio. Bernard Lacombe a un ratio hyper impressionnant, en moins d'années en plus, je crois qu'il joue de 70 à 78, il me semble. Mais voilà, pour ce côté un peu histoire, j'ai voulu mettre Dinalo. J'ai hésité longtemps entre lui et Benzema. J'ai fait ce choix un peu historique. Bon, même si j'ai l'impression que c'est Benzema qui va l'emporter. Mais voilà, je voulais aussi un peu souligner ce côté.
Bah,
ce
c'est
côté
marrant, Dinalo et Benzema, c'est les deux opposés, entre guillemets. Alors non, parce qu'ils sont tous les deux Lyon et tout, ça ils incarnent vachement ça. Mais Dinalo, c'est un mec qui n'était pas... Enfin, pas professionnel, c'est pas le mot que je vais utiliser. Mais Dinalo était énorme contre Saint-Étienne. Je crois qu'il a les plus grosses stats d'un buteur dans le derby. avec Révelli de l'autre côté. Et à côté de ça, bon, il n'a pas fait une... Je pense que les autres matchs, ça l'intéressait moins. Mmh. Alors que Benzema, il est né professionnel, quoi, tu vois. Donc c'est deux trucs différents. Et le côté romantique me pousserait presque plus à préférer Dinalo. Mais bon, en même temps, Benzema, il est...
Moi, il y a un joueur aussi que je voulais mettre dans la discussion pour ce côté un peu... Je dis ça parce que je sais que toi, Pierre, tu le kiffes énormément. C'est Lisandro Lopez, qui en plus a été champion il y a quelques jours là, en Argentine avec le Racing. Moi, je me rappelle quand il débarque, c'est le Mercato de 2009. Moi, c'est un des meilleurs Mercato de l'histoire du football français. Bordeaux est champion en titre, très fort. Marseille, Deschamps arrive, recrute Lucho González, Heinze, voilà, gros Mercato. Lyon arrive, recrute Lisandro Lopez. Je fais waouh, c'est Star Wars, tout le monde est prêt à partir à la guerre et tout. Et ce joueur était, qu'est-ce qu'il était beau. Qu'est-ce qu'il était beau. Incroyable. Et sa célébration de but est magique. Ah, moi, j'adore là, ce doigt là, contre la tempe. Là, c'est magique. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi aussi, Charlie, de Lisandro Lopez. Comment tu as vécu ces années à l'OL?
En fait, Lisandro Lopez, quand il arrive, on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est un mec de Porto.
Voilà. Ouais, on ne connaît pas trop. Ouais. Pas qui Lucho, c'est. Pareil, quand il débarque à l'OM, on ne connaît pas trop. Ouais.
Et c'est un mec qui, en termes de stats, en termes de titres, en termes de chiffres purs, n'a pas sa place dans un 11 de légende, parce que c'est très loin d'être le meilleur attaquant de l'OL. Il n'a pas du tout sa place aux côtés de Jude, de Anderson, Benzema et compagnie. Mais il avait une aura, un truc de fou, quoi. On a tous les Lyonnais, quand on a les images de Lisandro, son dernier match, qui chiale sur le banc, mais on chiale aussi, quoi. On a tous chialé quand il est parti. Pourtant, c'est un mec qui est resté que 4 ans, qui n'a pas été le monstre qui correspond à son aura, même si ça a été un joueur exceptionnel, un joueur beau, un joueur puissant, intelligent et tout ça. Ouais. Mais en termes de personnalité, en termes d'amour qu'il a donné aux supporters et qu'on lui a rendu, c'est un mec qui est... c'est un de ces mecs-là, il n'y en a pas beaucoup dans les clubs, qui dépasse... par son aura, par sa personnalité, sa qualité de footballeur, qui est quand même immense. Hein. Mais voilà, on a tous un amour. Je connais pas un seul Lyonnais qui dira « Ouais, Lisandro... »
Moi, je me rappelle de la demi-finale contre le Bayern. Donc le match, je crois, c'est plus le retour ou l'aller, où il me semble qu'il avait mis... Il avait écrit un texte en français. C'était sa première saison au club. Et,
C'est pour le Real, ça, non ?
C'est pour le Real.
C'est pour le Real ? C'est pas contre le Bayern ?
C'est pour le Real.
Non, c'est le match avant le
match à laquelle on a vu,
où c'est lui qui donne le but à Pjanic.
C'est ça, donc il met ce texte et tout pour... voilà, c'était plein d'amour, je trouvais ça très très beau. Et ça résume parfaitement un peu ce qu'est Lisandro Lopez, enfin ce qu'est le joueur Lisandro Lopez.
Un penseur, en fait.
Ouais, exactement, c'est ça. On est vraiment là-dedans. Et ce qui a été un peu... je trouve dommage pour lui, c'est qu'il a dû jouer aussi en même temps que Bafétimbi Gomis.
Parlons-en.
Voilà, on va en parler tout de suite. Gomis, un ancien de Saint-Té, comment vous l'avez vécu quand il est arrivé à Lyon?
Ah non, moi l'arrivée, j'ai kiffé de jouer jusqu'en 2012. Hein. Enfin, ouais. Je pensais même à certaines époques où il pouvait même jouer en équipe de France et tout. Et après, se sont superposées deux choses hyper désagréables. C'est-à-dire, il y a eu un système de 4-3-3 qui correspondait plus du tout à cette équipe, ouais. Et qui du coup a obligé Lisandro à jouer à gauche. Et, il s'est jamais exactement plaint, mais c'était un énorme gâchis. Et après, la seule fois où il a un peu redemandé à jouer dans l'axe, il a été, du coup, Gomis est sorti de l'équipe un moment, et après il s'est mis à gueuler en disant... Lisandro demande de jouer dans l'axe, du coup moi je joue plus. Enfin, du coup, moi, et là, à partir de ce moment-là, Gomis est devenu relativement détestable, menteur, intrigant, et puis du tout combatif sur le terrain. Mais c'est pas le fait qu'il venait de Saint-Té. Saint-Té était une petite équipe. L'OL voulait gagner la Coupe d'Europe, enfin en tout cas aller le plus loin possible.
On va mettre ça en exergue pour
le mercato de l'épisode 2009. Hein.
Saint-Té est une petite équipe. On va mettre ça, bam.
On va
teaser comme
ça. Non, mais à l'époque.
Je rigole.
Mais pour embrayer sur Gomis, c'est l'anti-Lisandro en fait. Moi aussi, j'ai aimé Gomis quand il est arrivé. Je trouvais que c'était un bon joueur. Et c'est un mec qui a marqué énormément de buts, plus c'est que vrai. Lisandro, qui a plus marqué pour l'OL que tous les autres attaquants à cette époque-là. Malheureusement, Gomis, il n'était pas dans l'idée qu'on se faisait, enfin en tout cas que moi je me faisais du football de l'OL. il correspondait pas à ça. Et il a eu, pareil, cette attitude de mépris, de, d'égocentrisme qu'on a revu après, hein, quand il est parti à Galatasaray, toi qui es supporter de l'OM.
On l'a vu aussi.
Voilà, ouin, 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 pourquoi ils ont pris Mitroglou, moi j'aurais fait aussi bien. Gomis, il a eu cette revirement de personnalité à partir du moment où il a pensé à sa gueule avant.
C'est ça.
Voilà. Il y a eu ce je pars pas, à, c'était je sais plus quel club qui voulait de qui parte.
Swansea.
Ouais, voilà. Bah, c'était Swansea d'ailleurs, ouais, je ne sais plus si c'était Swansea. Swansea, il refuse de partir, il ne prolonge pas, puis finalement, parce que c'est un club de seconde zone, puis finalement, il part quand même dans un club de seconde zone.
Ouais,
bah, Swansea.
Ouais, Swansea. C'est ça.
Voilà. et du coup, il a été. Moi, j'ai une pas une détestation parce que c'est fort, mais j'ai un désamour pour Gomis qui est terrible et qui est caractérisé par un truc qui est que contre la Juve, il n'est pas titulaire. Il rentre en jeu et il se touche les couilles. Il reste peut-être 10-15 minutes et moi j'ai ce souvenir très très précis d'être... Je suis à Gerland, je suis dans le virage nord. Il rentre et il ne fait pas le pressing. T'es contre la Juve en quart de finale d'Europa League. C'est peut-être le pic de Rémi Garde à l'OL. Et je me souviens qu'il ne fait pas l'effort. Et ça m'avait mais outré. Je me suis dit, mais pour qui il se prend quoi? Et alors là, on est dans l'excès de supporters et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment la caractéristique, c'est ça. C'est Gomis, ouais, il a marqué 100 buts avec l'OL, mais voilà.
Et alors, du coup, il part pas. Ça va obliger au départ de Lisandro. Ça va empêcher l'éclosion de Benzia.
Il nous a surfrustrés, quoi.
Ouais, la casette sur l'aile.
C'est presque pas de sa faute, à certains égards.
Ouais.
Mais voilà, il avait ce côté capricieux. Et puis, voilà, il a pas pourri, parce que c'est un mot qui est un peu fort. Mais oui, il a créé une frustration par rapport à Lisandro, par rapport à Martial, par rapport à Benzia et par rapport à Lacazette.
Ça fait beaucoup. Hein.
Voilà, qui fait que dans l'imaginaire collectif de beaucoup de Lyonnais, parce qu'on ne peut pas se poser en garant de toutes les Lyonnais, Gomis, voilà, c'est l'anti-Lisandro.
Est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez aimé mettre dans ce trio, qui ne sont pas forcément... all time, mais qui, pour une raison particulière, ça vous touche un petit peu, ouais.
Bah, déjà, avant de brasser tous les neuf, il y a un ailier gauche qui est fabuleux, c'est Franck Gava, qui participe à la super saison 94-95, où la légende voudrait que s'il y avait une déneigeuse à Metz, on n'aurait jamais entendu parler du Nantes de Suodo, enfin du deuxième Nantes. Et donc, lui, il est exceptionnel et il va se péter les quatre genoux, notamment après avoir signé au PSG, mais c'était déjà blessé plusieurs fois avant. Genre super fort, un vrai milieu de côté, quoi. Et alors après, si on doit brasser les neuf, on a parlé de Dinalo.
On n'a pas cité Malouda. Monstrueux à gauche, monstrueux.
Après, on va brasser les neuf et là, il y a de quoi brasser.
Ah ouais, bah, du coup, on a dit Dinalo, il y a Florian Maurice, pareil, bah, même époque. Et en plus, lui, c'est aussi un gamin du club. Enfin, tout le monde est sûr que c'est le nouveau papin, que ça va être en tout cas son successeur en neuf en équipe de France. Et c'est fou parce qu'il s'est pété vachement de fois. Et à chaque fois qu'il est revenu, même dans des clubs moyens comme Bastia ou...
comme l'Olympique de Marseille.
Je l'attendais, celle-là.
Oui, je ne sais plus, c'était Andoum ou l'OM. C'est l'OM. Il marque... Il continue à marquer, tu vois. C'est une machine à but, mais bon, en tout cas, après 97-18, ça n'aura plus jamais été pareil qu'avant. Il y a Lacombe qui est, comme bon, voilà, tu l'as dit, qui a un ratio exceptionnel. Et puis c'est pareil, c'est une autre histoire de l'OL. C'est pas le mec du quartier des États-Unis dans le 8e comme Domenech. Lui, c'est plus, je sais pas, les Monts d'Or, enfin, un truc un peu plus chic, ce serait un grand mot, mais plus lyonnais, quoi. Et Caviglia. Super belle histoire. C'est un mec qui se fait têche du centre de formation parce qu'il n'a pas le niveau, à une époque où pourtant l'OL est en D2, tu vois. Donc il va à Guignon, il va aller au Havre, à Sochaux, je ne sais plus dans quel ordre. Et puis il va revenir en... Quand le mec part, il dit « je reviendrai » et il est revenu en star. En star, pas d'énormes années, il n'a pas de titre.
Moi, Caviglia, c'est le col. Moi, je retiens
c'est
ça.
C'est la personnalité du bonhomme aussi.
Ouais. J'étais et gamin, je le voyais avec son col, je fais OK, ça, je kiffe.
Dans les premières fois où je suis allé à Gerland, enfin, j'étais déjà allé avant, mais quand j'habitais à Lyon, quand je suis arrivé à Lyon, je me souviens très bien d'un match de Ligue des Champions et la première campagne de Ligue des Champions, bah ouais, parce qu'un an avant, c'était l'élimination à la con contre Maribor. Donc énorme excitation générale. Et donc ça doit être un mardi, il devait y avoir un match de D2 la veille, donc le lundi soir. Et le speaker fait hier, stade de Geoffroy Guichard, Saint-Etienne a été battu par Le Havre 1-0, but de Alain. Là, t'as tout le stade qui allait jouer contre le Barça ou je sais pas quoi. Caviglia. Et là, je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai vachement entendu dire par la suite que l'OL était un club de je sais pas quoi, neuf, qui avait pas d'âme ou je ne sais quoi. Et là, j'ai dit, putain, les mecs, ils vont jouer en Ligue des Champions et ils sont en train de célébrer le but d'un mec qui est parti maintenant il y a 3 ans. Parce qu'il a marqué en plus contre Saint-Etienne, quoi. Et je me suis dit, il y a une âme ici quand même.
C'est pas mal. Est-ce que t'en avais d'autres, toi, Charlie ? Je sais que tu m'avais parlé d'un. Pas vraiment neuf, si, neuf, un peu à droite aussi.
Il y en a deux qu'on n'a pas
cités. Qui met des
encore.
Très beaux buts.
Il y en a deux qu'on n'a pas cités. Il y a un choix du cœur évident qui, pour moi, est obligatoirement cité, c'est Jimmy Briand.
Ouais.
Il n'a pas sa place en termes de carrière et tout ça, de joueur,
ouais,
comme
ouais.
d'habitude. Mais on est sur un joueur. Qui déjà à l'OL dans le cœur, on se souvient tous de quand il marque le but et qu'il fait le signe de l'OL, là. C'était contre Saint-Etienne, je crois. Et c'est un joueur qui, voilà, il est dans l'histoire de l'OL parce qu'il y a ce but contre Saint-Etienne à la 93e, où moi j'en ai un souvenir, j'étais en Erasmus en Slovénie à l'époque, et j'ai hurlé, j'ai fini les bras en croix par terre sur le carrelage de mon appart avec les voisins qui viennent toquer pour savoir si tout va bien. Et Jimmy Briand, voilà, il y a le retourné contre Nancy,
oh là là.
Et il y a cette tradition qu'a Jimmy Briand de faire la nique à Saint-Etienne, quoi. Partout où il est passé, il a niqué Saint-Etienne. Et ça, et voilà.
C'est un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'OL contre Saint-Etienne, d'ailleurs.
Ouais. Voilà. Et il a je me rappelle de l'épisode sur les Frankenplayers, les attaquants, c'était Sofiane qui l'avait mis dans la catégorie clutch. Il ouais. a dit, moi, je mets Jimmy Briand et tout. Je sais que je vais faire le forceur, mais je mets Jimmy Briand parce qu'il a été clutch dans toute sa carrière aussi de marquer des buts à 90, plus 1, plus 2, etc. Donc, ouais, Jimmy Briand.
Et le dernier, c'est Alexandre Lacazette. Je suis obligé de vous parler d'Alexandre Lacazette parce que j'ai hésité à le mettre dans le 11 tout
ouais.
court.
Ah ouais. Déjà, parce qu'il n'y a pas deux trucs, il y a 1000 trucs. Déjà, parce qu'il est détesté, c'est le mec le plus sous-coté du monde du football. Et en plus,
même chez Lyonnais, c'est toujours le demi-mesure.
Ouais, toujours.
Non, mais là, justement, lui, il t'oblige à être hyper lyonnais, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé que Lacazette est un connard, alors que je pense que c'est un bon gars, clairement. Les mecs pensent qu'il est limité, bon, alors qu'il est très fort et tout. Et en plus, c'est le fils de Lisandro et de Govou. Je veux dire, c'est genre, il ressemble aux deux, il s'est imprégné des deux. Non seulement c'est un vrai Lyonnais, et c'est le fils des deux plus beaux immigrés qu'il y a eu à Lyon, tu vois. Donc, c'est un joueur que je kiffe absolument. Et c'était un leader, je revois très bien. Je ne sais plus, c'est Gonalon qui a le brassard, ou je ne sais qui.
Et Dupuis.
Et oui, il n'est pas de Lyon. Quoi.
Ah, d'accord, j'avais pas la ref.
on précise au cas où, mais.
D'accord, ok, oui, donc Dupuis en okay,
c'est un mec qui n'est pas de Lyon, quoi. ou de Givor ou de Tarar, quoi. Et donc, je revois très bien le mec, il a 21 ans et tout, il n'est pas encore titulaire et il se fait chier sur l'aile droite à faire des saisons à 4 buts. Mais bon, des bonnes saisons parce qu'il défend comme un chien et tout. Et je revois les mecs prennent un but et là, je vois un mec qui prend la parole et je dis putain, mais c'est Lacazette, quoi. En fait, tu avais une espèce d'équipe un peu fade mais où les mecs avaient un statut bien plus grand que le sien. Et lui, c'est un putain de leader charismatique. Moi, par exemple, qui n'aime pas trop donner le brassard à un neuf. Lui, c'était une évidence, quoi.
Ouais, je sais pas pourquoi, peut-être on ne s'est pas assis mis en avant, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il est. J'ai pas cette image de lui en tant que leader. Vous me le dites et vous connaissez sûrement mieux que moi Lacazette et son impact et tout, mais c'est vrai que moi, j'ai pas forcément cette image de.
Leader par la parole, leader par l'attitude.
Leader technique, je veux bien.
Non, mais le match qu'il fait contre l'OM, parce qu'en fait, ça m'avait fait plaisir, parce que je me dis, pour une fois, les gens l'ont vu, celui-là.
Ouais.
Alors, c'est il y a 2 ans, je ne me souviens
pas. Quand il fait tomber Mandanda.
Non, mais je crois que c'est le dernier qu'il doit faire avant de partir ou l'année d'avant où il va tacler à la place de Morel qui est dépassé, quoi, arrière gauche. Non, mais genre, c'est un clébard. Enfin, et en plus, c'était marrant parce que c'était gamin, c'était plutôt un feignant. Et je te dis, c'est pour ça que je te dis qu'il s'est imprégné de Licha. Il a le côté un peu imprévisible de Govou, tu vois. Cette capacité d'un pro dans le geste et tout. Et puis, et le côté clébard de Licha. Et donc, du coup, je peux que l'aimer. Effectivement, dans un 11 de cœur.
Moi, même dans le 11 de légende, on est obligé de mettre Anderson. mais j'ai hésité. Mmh. Et comme tu dis, il te rend très lyonnais parce qu'il a été critiqué, pénal Cazette et tout ça. En attendant, lui, il émettait les pénalties. Hein, parce que j'ai beau avoir un amour infini pour Nabil Fekir, au moins la Cazette, ça rentrait quasiment à coup sûr. Mais surtout, il a des matchs avec l'OL, des grands matchs. Il a la campagne d'Europa League. Il y a des moments.
Il y a des moments grandioses
quand il marque deux buts.
La Roma.
Quand il marque deux buts avant la mi-temps et qu'il repart avec le ballon sous le coude à la mi-temps, là, dans un stade qui explose complètement. Il marque deux buts, il prend le ballon, allez, on rentre et on reviendra. Moi, j'ai cette image-là, je suis au stade ce jour-là.
Contre l'Ajax.
Déjà, il met ses deux buts et il part le ballon sous le main. Mais contre la Roma, ce but-là, où moi je suis au stade, je n'ai pas entendu le commentaire en live, le général Lacazette, ça, c'est vraiment la frappe longiligne.
Et la célébration de but.
Ouais.
Il a 100% de passes réussies ce jour-là, donc là tu dis on s'en fout de cette stat. Mais il faut revoir le but de Tolisso. C'est quand même un double 1-2 dans un endroit extrêmement serré, c'est-à-dire qu'il a 100% de passe réussir en jouant
9.
Non, mais surtout en jouant avec un jeu un peu à risque, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est un match
contre la Roma, il joue 10 en plus, quoi. Non,
non, il joue 9.
Il y a un match où il joue 10 en Coupe d'Europe.
Dans cette campagne-là, je pense pas.
Non, mais Lacazette, il n'est pas resté longtemps à Lyon au poste d'avant-centre, mais il a une liste de matchs
référence,
c'est au-dessus de ça, de matchs mythiques. Qui dépasse l'entendement.
Et les gros matchs.
Il a massacré l'OM, il a roulé sur la Roma à lui seul, il a entretenu l'espoir contre l'Ajax alors que tout le monde arrivait au stade en disant rien, vraiment parce qu'on a pris nos billets. Quoi.
Il a mis un triplé pour Monaco, le match où il fallait se qualifier pour la Ligue des Champions.
Et le dernier
il a fait valser Thiago Silva.
Moi, il m'a fait chialer la Cazette. Hein. Le dernier derby, j'ai chialé, j'étais en larmes. C'est grandiose.
Le mec, dernier derby à Gerland, il met un...
3 buts.
Il met un triplé.
Propre.
Voilà.
Propre. Premier but dans le grand stade.
Lacazette, il représente une époque qui n'est pas une époque glorieuse pour l'Olympique Lyonnais. Lacazette, il fait quand même ses débuts avec un péno raté contre Chypre. Hein. Enfin, contre Chypre, contre la Poel. Il représente une époque qui restera pas dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais parce que c'est de la reconstruction, il y a pas de titre, il y a parfois pas de Ligue des Champions, mais il y a des moments où tu sais c'est le grand-père qui va parler de son môme, le truc dont il s'en branle complet quoi. Voilà, ton môme, nos mômes, ils s'en foutront complètement d'une quart de finale contre la Juventus, tu vois ce que je veux dire. mais voilà, Lacazette, il représente une époque qui était importante pour le club.
Bon, on le met à la place de Sony, non?
Ah, c'est dur pour Sony.
C'est dur quand même. Moi je dis non. En tout cas, moi je dis non. Mais après
voilà.
Moi je dis non. Non. Vous pouvez pas faire ça. On le met en remplaçant. C'est le seul. On le met en remplaçant. Voilà. Si vous voulez. Donc du coup, je vais résumer. Alors cette attaque et je vais même résumer l'équipe. Du coup, on aura l'attaque. Donc dans les cages, on a Grégory Coupé qui a fait l'unanimité décidément. Ensuite défense à 4, à gauche Abidal, dans l'axe Umtiti, Chris. À droite, Raymond Domenech, un trident au milieu, Diarra, Juninho et Chiesa. Et enfin, le trio d'attaque, à gauche, Karim Benzema, à droite, Sidney Govou, et en pointe, Sonny, Anderson. Et en quatrième, en option, en cas de pépin physique, on met Alexandre Lacazette.
Vous êtes d'accord avec cette équipe ? Je mettrais même Delgado en clutch. Ça, c'est le cœur qui parle.
Ça vous va cette équipe ?
C'est pas mal du tout.
Moi j'aime bien, surtout l'attaque. Moi j'ai une préférence pour l'attaque. Celle du PSG, j'aimais bien le milieu de terrain, mais là l'attaque me plaît beaucoup.
Moi j'aurais quand même donné cher pour voir une défense Chris Umtiti. Voilà.
Ça, on peut faire ça sur FIFA, non ?
Ouais, je sais pas.
Non, Chris, je crois qu'il doit pas être dans FIFA. C'est pas possible. C'est pas forcément possible.
Dans PES, tu sais, les légendes.
Faut regarder. Alors messieurs, avant de conclure cet épisode, juste vous demander, j'ai une question qui me vient comme ça, si vous pouvez me citer votre joueur préféré, ce serait peut-être trop facile, mais votre match préféré, un match de l'OL qui vous a marqué à vie.
Alors je suis un peu obligé, je vais passer très vite sur je vais en parler quand même, sur le but de Briand en 2013 à Geoffroy Guichard, donc c'est un match qui n'est pas important, c'est un derby, mais je veux dire, ce qui est très marrant c'est, pour l'anecdote, c'est que c'est le premier match où les supporters n'ont pas le droit d'y aller. Du coup, dans tous les bars à Lyon, pour ceux qui n'étaient pas en Slovénie, dans tous les bars à Lyon sont hyper blindés avec des mecs qui auraient pu être naturellement dans le COP. Donc, il y a une ambiance de malade en ville. Et il y a Et l'OL est clairement en dessous de Saint-Étienne à ce moment-là. Et donc, il y a ce hold-up merveilleux à la 93e minute. Donc ça, c'est un très bon souvenir de bar. Et le meilleur souvenir de stade, pour moi, c'est j'étais à OL Celtic en 2002 ou 2003. En tout cas, c'est la première fois que l'OL va sortir des poules. Et ça se joue au dernier match. Il y a Jérémy Berthaud qui fait une connerie, machin. Enfin, les mecs sont devant. Et puis après, il y a Juninho qui va mettre un but de 30 mètres et un penalty à la fin. Je crois qu'il y a 3-2. Et ambiance dans le stade de malade. Genre le stade qui tremble et tout. Enfin, je l'ai déjà senti aussi trembler contre le Real et tout. Mais OL Celtic, pour moi, c'est the game.
Top. Charlie, ton meilleur souvenir de match ?
Moi, il y a deux matchs qui me viennent en tête. Le premier, de façon très objective, pour le stade, pour l'ambiance, pour un truc que j'ai jamais vécu à Gerland ou au Parc OL. Enfin, c'était le match contre Monaco, le 6-1, qui est sportivement très important parce que c'est le match.
Ça, c'est évidemment mon meilleur souvenir de Décines aussi.
Ouais. C'est ce jour-là, honnêtement, j'ai pas fait tant de stades que ça dans ma vie, mais j'ai fait des classicos au Vélodrome, j'ai fait la Beaujoire en furie, j'ai fait le Parc des Princes à l'époque où c'était encore le feu dans tous les sens du terme, et les mauvais aussi. J'ai jamais vécu dans un stade une ambiance comme j'ai vécu ce jour-là, ce match contre Monaco. Le stade était plein à craquer, on devait être 57, 58 000, et tout le stade était complètement ivre, en fait. T'as les présidentielles, tout le monde faisait une grecque, tu sais, quand tu te mets dos au terrain et tout se prendre par les épaules. C'était mais absurde, en fait. C'était une communion, un boucan pas possible, c'était incroyable. C'était une fête pendant 90 minutes.
Et puis, c'est ce jour où les mecs inventent la chanson de Mapou, ouais. Donc ils l'avaient prévu avant. Et le mec m'a doublé, quoi.
Mais deux buts, quoi. Un doublé de Mapou, enfin, c'est absurde. Et moi, je me souviens aussi de ce moment incroyable où tu as Lassina Traoré qui a déjà un jaune. Et à un moment, c'est pour moi, c'est le grand moment de la carrière d'Anthony Lopez. Il est là. C'est pas qu'il gagne l'Euro en étant remplaçant, on s'en fout. Tu vois. C'est qu'à un moment, il a le ballon dans les pieds ou je sais plus quoi. Et Lassina Traoré arrive comme un 36 tonnes sur lui. Et je le vois, il lève la tête, il voit Lassina Traoré qui arrive. Et là Lassina Traoré, il a déjà le rouge. Tu vois, il sait très bien ce qui va se passer. Et puis voilà, il se passe ce qui se passe. Ils sont à 10 contre 11 et tout ça. Et l'ambiance, j'ai jamais revécu une ambiance comme ça dans le stade. Et l'autre, pour des raisons un peu plus personnelles et tout ça, parce que il y a des fois, les as sont alignés dans la vie des gens. C'est le dernier derby à Gerland où j'étais au stade. J'étais au stade avec ma copine de l'époque et tout ça. Et voilà, enfin, ce match-là, tu peux le rêver qu'il se passe pas comme dans ton rêve. Quoi. Tu peux pas imaginer une seule seconde que le dernier derby à Gerland, tu vas gagner 3-0 en roulant sur Saint-Étienne avec un triplé de Lacazette qui était mon joueur préféré à l'époque. Et ça, ce jour-là, moi, j'ai lâché une petite larme en hurlant. J'étais en loge en plus à cette époque-là, en hurlant dans les loges comme un taré, quoi. Voilà. Et ce match-là, il est, pour moi, c'est pas le plus beau jour de ma vie parce que c'est un peu exagéré, mais c'est ouais, c'est un des jours de ma vie qui a compté, quoi. Voilà. Pas que par le foot, mais voilà, c'était l'alignement des planètes, quoi.
Très bien, très bien. Bah, de très, très beaux souvenirs sur l'Olympique
Lyonnais. Oui. En coach, on va mettre Rémi Garde. Non pas qu'il a été un excellent coach, mais surtout parce que c'est un excellent joueur et qu'on ne l'a pas du tout cité.
C'est vrai. Effectivement.
Il pourrait tout à fait être le remplaçant de Gila en 6.
Et Rémi Garde, moi j'ajouterais qu'en termes de moyens à disposition et de plaisir donné aux supporters, je pense qu'on est sur une performance assez
exceptionnelle. Un bon ratio, effectivement. Ouais. Je suis plutôt d'accord sur cet avis-là. Moi, je ne vais pas vous citer de match parce que je n'ai pas vu énormément de matchs. J'en ai vu, mais pas énormément comme vous pour en citer un qui m'est particulièrement marqué.
Même si PSV Marseillais, tu vas nous citer le 5-5.
Non, même pas. Non, mais même si j'ai bien aimé les derniers matchs contre le PSG, surtout celui de la saison dernière là avec la frappe incroyable de Memphis quand il bloque son pied là, enfin, ouais. Magnifique. Messieurs, merci beaucoup. Juste avant de vous quitter, Pierre, où est-ce qu'on peut te lire, te voir sur Twitter, dans l'équipe Libéraux Lyon, où est-ce qu'on peut te lire, te voir?
On peut me voir au café. Et non, mais on peut. Oui, j'ai un compte Twitter qui s'appelle Prugno, comme mon nom, Prugneau. Et je réponds aux gens, je parle et je suis très sympa.
Je confirme.
Ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes lyonnais de l'équipe.
Je ne sais pas de qui tu parles. Charlie.
Donc, pareil sur Twitter et du coup au bar avec Gone Away où on va régulièrement voir les matchs de l'OL dans des bars. On était 400 pour le match contre le Barça, c'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Et allez, vraiment une toute dernière question avant de vous lâcher. Oui ou non, il y avait pénalty sur Nilmar?
Bah, évidemment.
Évidemment.
Voilà. Merci messieurs, merci beaucoup. À bientôt. Et merci encore d'être venu dans Banquette. Ciao.
Ciao.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. Cet épisode est monté et mixé par Laurie Galigani. Si vous avez aimé cet épisode, venez nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pensez aussi à mettre 5 étoiles à Banquette sur Apple Podcast pour nous donner de la force. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao !